Grandir ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, l'armée israélienne poursuit ses raids meurtriers sur plusieurs localités de Cisjordanie occupée. Opération débutée le 21 janvier dernier, qualifiée d'antiterroriste par Israël. Reportage dans un instant dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Fara, où les habitants de retour chez eux constatent les dégâts. À la une aussi, les préparatifs du sommet de l'Union africaine. Ce sera demain à Addis Abeba. Parmi les chefs d'État présents, le président congolais Félix Tshisekedi. Il sera question de la situation dans l'est de la RDC, mais aussi de l'élection du successeur de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et puis il est attendu aujourd'hui à la conférence sur la sécurité de Munich. Le vice-président américain J.D. Vance tente de rassurer après les propos de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Les États-Unis auront à cœur l'indépendance souveraine de l'Ukraine dans la négociation. Des amas de bitume laissés par les bulldozers de l'armée israélienne. Le camp d'Al-Fara, dans le nord de la Cisjordanie occupée, se relève de l'opération israélienne menée sur place. Opération qualifiée d'antiterroriste par Israël qui vise les groupes armés palestiniens depuis le lancement de l'offensive baptisée Mur de Fer le 21 janvier dernier. Les destructions sur place sont massives, y compris sur les infrastructures d'approvisionnement en eau. Notre envoyé spécial, Abla Junaidi, a pu se rendre sur place. Son reportage.
En 40 ans, les frères Merdaoui en ont vu des assauts de l'armée israélienne dans le camp. Mais un siège aussi long, jamais.
D'abord, ils m'ont demandé pourquoi je n'avais pas évacué. Mais c'est ma maison. Où est-ce que je vais aller? Il faudra me tuer ici. Je n'irai pas ailleurs avec mes enfants. Donc on est resté 11 jours sans une goutte d'eau à boire.
On est arrivé à un point où l'on récoltait l'eau de pluie.
Tout en demandant aux gens de partir, l'armée israélienne a détruit une grande partie des infrastructures hydrauliques du camp. Jawad, un technicien, tente de relancer la distribution coupée depuis 12 jours.
On a installé de nouveaux tuyaux ici. On va refaire fonctionner l'eau du puits pour détecter les fuites et les réparer.
Pour Khaled Mansour, né dans ce camp il y a 60 ans, l'enjeu est clair.
L'objectif, c'est d'en finir avec les camps, qui sont le symbole même de la cause des réfugiés et du droit au retour. Dès le retrait de l'armée, les gens sont rentrés chez eux, car nous sommes les plus attachés au maintien sur notre terre. Il n'y a de dignité que sur sa terre.
Dans l'urgence et dans le bruit des camions-citernes, les autorités locales, liées au parti au pouvoir, le Fatah, pourvoient aussi aux besoins alimentaires et sanitaires, également mis à mal pendant l'opération militaire israélienne. Abla Junaidi, de retour d'Al-Fara, Jérusalem, RFI.
Et selon l'agence humanitaire de l'ONU, l'opération israélienne baptisée Mur de Fer a tué 39 Palestiniens, entraîné le déplacement de 40 000 autres. Le Proche-Orient, où le comité international de la Croix-Rouge, qui a facilité les échanges d'otages et de prisonniers palestiniens entre Israël et le Hamas, se dit ce matin très inquiet des conditions de vie des otages toujours retenus à Gaza. Déclaration alors que le Hamas, après plusieurs jours de tensions et d'incertitudes, s'est dit prêt à respecter le calendrier prévu. Il doit fournir le groupe palestinien aujourd'hui à Israël la liste des otages libérables demain en échange de prisonniers palestiniens. En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent dans le sud Kivu, combat entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 qui contrôle désormais les localités d'Iyoussi et de Kalehe centre, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bukavu, la capitale provinciale. Demain, le président congolais Félix Tshisekedi participe au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Au programme de ce sommet, notamment l'élection d'un nouveau président de la commission de l'UA pour succéder à Moussa Faki Mahamat. Trois candidats sont en lice, le Kenyan Raila Odinga, le malgache Richard Randria Mandratou et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Quel que soit le vainqueur, il aura fort à faire pour redorer le blason d'une institution, l'Union africaine, dont l'inefficacité et l'impuissance sont souvent pointé du doigt. Écoutez à ce sujet Paul Simon Andy, directeur de bureau à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Il évoque des moyens limités de l'organisation.
Il y a une mauvaise perception de ce qu'elle est
et de ce qu'elle peut réaliser, de ce que son mandat lui permet déjà de faire.
On parle d'une commission de l'Union africaine, mais il faut avouer que dans les faits, quand on voit les compétences, il s'agit toujours d'un secrétaire général. Un secrétaire général, c'est quelqu'un qui met en œuvre la volonté ou les volontés des États membres. Il a très peu de compétences en termes d'initiative, même s'il y a beaucoup d'experts qui pensent que beaucoup de présidents de la Commission de l'Union africaine n'ont pas su faire le travail politique nécessaire pour mobiliser le soutien des États membres lorsqu'ils prenaient des initiatives qui, même si elles pouvaient être contestées, auraient pu aussi, avec un minimum d'efforts de persuasion, être portées par un ensemble d'États membres. Et justement, on reproche notamment au président Faki de n'avoir pas pris assez d'initiatives ou lorsqu'il en a pris, de n'avoir pas fait le travail politique nécessaire.
Et Paul Simon en dit, joint par Florence Maurice. Direction Munich en Allemagne où débute aujourd'hui la conférence annuelle sur la sécurité. Le rendez-vous sera marqué cette année par les prises de position de Donald Trump sur plusieurs dossiers, dont le dossier ukrainien après le coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Attendu sur place, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et le vice-président américain J.D. Vance qui a accordé un entretien au Wall Street Journal. Les États-Unis auront à cœur l'indépendance souveraine de l'Ukraine dans les négociations à venir avec la Russie sur l'issue de la guerre. Tout sera sur la table, a déclaré le vice-président américain. Cette conférence qui a lieu à 9 jours des élections législatives en Allemagne, grand absent de la campagne, la question du changement climatique. Et le service fédéral de renseignement allemand rappelle à l'ordre les candidats dans un rapport publié cette semaine, Stéphanie Schüller.
Mauvaise récolte, pénurie d'aliments et d'eau, inflation galopante, le changement climatique provoque des crises humanitaires et des nouveaux conflits pour l'accès aux ressources vitales de plus en plus rares à travers le monde. Les intempéries catastrophiques d'octobre dernier en Espagne montrent que le sud de l'Europe pourrait être touché plus tôt par les effets du réchauffement planétaire que le nord. Un danger réel pour la cohésion de l'Union européenne, estime le service allemand de renseignement. Sur le territoire national aussi, les phénomènes météorologiques extrêmes mettent en péril la sécurité et les biens des Allemands et perturbe le fonctionnement des infrastructures critiques, sans parler des coûts des reconstructions post-catastrophe et de l'interruption des chaînes d'approvisionnement qui plombent la prospérité économique du pays. Un terreau fertile pour les populistes qui tentent déjà de saper la démocratie. Les services de renseignement allemands recommandent donc d'investir sans tarder dans la résilience des plus vulnérables afin d'éviter la déstabilisation politique en interne ainsi que les conflits à la périphérie de l'Europe.
Stéphanie Schüller. C'est une nouvelle escalade dans la guerre commerciale des États-Unis contre ses partenaires économiques. Donald Trump a dévoilé hier une feuille de route pour instaurer à l'avenir des droits de douane réciproques. L'idée, c'est d'imposer aux produits qui entrent aux États-Unis le même niveau de taxes que ce que les pays d'origine font peser sur les produits américains. Les États-Unis, toujours où Elon Musk est devenu l'un des plus influents collaborateurs de Donald Trump, au point d'apparaître parfois comme un vice-président bis. Mais le milliardaire reste le patron de plusieurs entreprises, dont Tesla, l'un des leaders mondiaux du marché des véhicules électriques, une entreprise qui pâtit de l'irruption de son propriétaire sur la scène politique. Sauf que Nathanaël Vitran, Elon Musk peut compter sur le soutien de ses alliés au gouvernement.
Le virage à droite toute du milliardaire rend visiblement les acheteurs frileux. Au global, les ventes de Tesla ont reculé pour la première fois en 2024. En France et en Allemagne, où Elon Musk fait ouvertement campagne pour le parti d'extrême droite AFD, elles ont même reculé de 60% en janvier. Quant au Cybertruck, le pick-up angulaire dernier né de chez Tesla, les ventes ont tellement ralenti fin 2024 que l'entreprise a dû se résoudre à baisser significativement ses prix. Heureusement pour Elon Musk, il a des amis haut placés. Pendant qu'il était occupé de la main gauche à sabrer dans les dépenses fédérales, à tailler dans les programmes sociaux, profitant selon lui à une classe parasite, de la main droite, il signait un juteux contrat avec le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères, qui s'est engagé à lui acheter pour 400 millions de dollars de Cybertruck blindé, largement de quoi compenser les plus de 260 millions de dollars investis par Elon Musk dans la campagne Trump. L'intraitable pourfendeur record des dépenses publiques n'y a cette fois rien vu à redire.
Nathanaël Vitran. Enfin, en France, l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud a signé en justice pour non-respect de la vie privée. Plainte déposée par Saada Arban, ressortissante algérienne qui l'accuse d'avoir tout simplement volé son histoire pour en faire le cœur de l'intrigue de son roman Ouris, récompensé l'an dernier par le prestigieux prix Goncourt. Une première audience de procédure est prévue en mai prochain. Contacté par l'agence France Presse, l'éditeur Gallimard n'a pas souhaité réagir. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est Priorité Santé sur RFI.